crois qu'en fait, ce qui crée un malentendu, c'est que c'est le contexte. C'est-à-dire que le réseau qui organise cette séquence s'appelle Approche critique du développement durable. Donc le but de ce réseau, c'est de démonter le vocabulaire qui tourne autour du développement durable. La deuxième chose, c'est que le cycle de séminaires dans lequel on est aujourd'hui démonte une autre notion qui est celle d'acceptabilité sociale. Et donc la séance d'aujourd'hui, en tout cas moi c'était l'idée que j'avais au départ, c'était justement d'arriver à décrypter ce qui se cache et toutes les implications de ce vocabulaire. Parce que... Pardon ? Oui, mais si on prend au sérieux ce vocabulaire, le problème c'est que si on le met de côté, comme tu l'as dit, on risque de retomber dans les mêmes ornières. C'est-à-dire, par exemple, hein, tu as dit, à un moment donné, je ne sais plus exactement les mots que tu as utilisés, mais ça se terminait par... on parle de déchets et non pas des oiseaux et de la forêt.
Pas qu'on parle de déchets et non pas des oiseaux et de la forêt, mais qu'on peut parler des oiseaux et de la forêt, il y a aussi de déchets.
Non, mais d'accord, mais c'était l'idée que l'art dénonce des choses, dans les cas, par exemple, hein, je ne dis pas que ça se réduit à ça, mais dans les cas où on parle de déchets plutôt que justement de montrer la nature, les oiseaux et les petites forêts. Or, le développement durable, par exemple, ne fait que parler de déchets. L'acceptabilité sociale passe justement par le fait qu'on nous culpabilise en disant « Vous produisez des déchets, il faut faire les petits gestes citoyens et quotidiens, et comme ça la planète sera sauvée. » Donc l'idée, c'est justement de décrypter les implications de ce vocabulaire qui est utilisé pour ne pas retomber dans les mêmes ornières et penser que si on parle de déchets, on parle politique.
Alors,
je prendrai un autre exemple, c'est l'expo de Horta, justement, à la Villette. Qui pour moi est une expo typiquement développement durable, c'est-à-dire où on nous donne les recettes d'un monde tel qu'il devrait être pour que le monde, la planète soit sauvée, que l'humain reprenne le dessus, etc. Et dans ce type d'expo, par exemple, le politique est évacué au profit d'une espèce de bon sens citoyen. Voilà.
Moi, je suis de plus en plus d'accord avec ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes empoisonnés par des mots toxiques et qu'il suffit, et qu'essayer de les prendre en compte, même pour les critiquer, ça signifie déjà être intoxiqué. Donc, on a parlé de beaucoup de formes d'écologie, il y a aussi une écologie de la langue qui, d'après moi, devient de plus en plus urgente parce que on trouve des étudiants, par ailleurs, très cultivés, très intéressants, etc., qui écrivent des très beaux mémoires dans lesquels on trouve les termes impactés et d'autres monstruosités de ce genre qui dérivent d'un langage économique, managérial, etc., qui est en train de polluer la langue. Et je pense qu'il n'y a aucun compromis possible. C'est, on ne va pas dire on va le critiquer, on va dire... Voilà, parce qu'à partir du moment où on les prend en compte, on rentre là-dedans. Moi, je trouve que c'est une spirale sans fin. Et il faut choisir de parler autrement et dire pourquoi on parle autrement et pourquoi on refuse. Moi, je commence mes séances de formation en mémoire en faisant à mes étudiants de façon très... Il y en a une qui est témoin, la pauvre, en faisant de façon très dictatoriale, tyrannique, extrêmement violente, une liste d'expressions interdites. Basta. Je ne veux plus en entendre parler. Parce qu'une fois qu'on a mis de côté un certain nombre de mots, on peut commencer à penser... Parce que les efforts qu'ils font les étudiants pour trouver l'équivalent du terme, qu'est-ce que c'était, individu par exemple, hein, pour remplacer le terme individu par autre chose, ou je ne sais plus de quoi il s'agissait, au développement durable, durabilité, etc., c'est déjà créer un espace de pensée qui est complètement bouché, paralysé par ce langage qui nous est en train de nous détruire, hein, et qui nous empêche de penser. Donc je pense qu'il n'y a aucun compromis possible, même pas dans la physique. Il faut évacuer ces termes, il faut s'en désintoxiquer, et après on va pouvoir commencer à penser.
Mais pour s'en désintoxiquer, il faut savoir ce que c'est. Et ce que raconte Thierry Paco en disant il a beau faire tout ce qu'il peut, le mot développement durable s'impose à ce que les gens ont dans la tête, il faut bien comprendre ce qui se passe.
On comprend que c'est beaucoup plus facile de parler de développement durable que de parler d'écologie avec toute sa complexité. Parce que le développement durable, on gère. Hein. On met dans les petites cases les déchets, les ressources, etc., etc. Et on résout beaucoup plus facilement la question qu'on ne résout pas, par ailleurs.
Pour rejoindre Manuela, il y a cette très belle citation de Jacques Rancière qui dit « Au fond, la rupture, ce n'est pas de vaincre l'ennemi, c'est de cesser de vivre dans le monde que cet ennemi vous a construit. Donc c'est un peu ça le, c'est un peu ça le propos.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça, bien sûr. Et je voulais simplement parler de trois choses, parce que je crois que c'est très important. Bon, par exemple, là, dans cette assemblée, il y a pas mal, il y a même un grand nombre d'étudiants qui font architecture des milieux. Architecture des milieux, c'est une résistance, c'est une création. C'est-à-dire, c'est qu'on invente une formation qui, justement, au départ, travaillait dans la question du développement durable, parce que c'est un contexte. Mais le contexte, c'est le développement durable. Par contre, la chose même, elle est devenue une impasse, puisque à partir du moment où on essaie de travailler sur un alter, une alter architecture, une alter philosophie, même, on peut, de certaines manières, hein, on pourrait dire, parce que je pense que quand Guattari, quand il parle d'écosophie, c'est une alter philosophie par rapport justement à une grande lignée. Donc, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on est à un tournant paradigmatique, beaucoup le disent, c'est un peu banal. Mais c'est quand même, c'est vrai qu'il y a un travail sur les mots, parce que les mots, c'est à la fois une résistance et une création. Et je pense que cette, quand on s'appelle par exemple architecture des milieux, c'est une résistance à justement une architecture du développement durable, qui est une architecture extrêmement violente pour les milieux habités et pour les plus faibles. Donc là, c'est une prise de position, et ça, moi, je pense que c'est vrai que c'est une bataille. La bataille sur le vocabulaire, sur les mots, elle est fondamentale. Après, je pense qu'il faut qu'on prenne très très au sérieux ce qui est du domaine presque, je dirais, de la critique théorique, de ce qui est, et puis de comment est-ce qu'on réfléchit, comment on pense, comment est-ce que... C'est vrai, pour moi, c'est une énigme, quelque part. C'est pas une énigme, mais en même temps, il n'y a pas une réponse. Et je constate... Les savants qui maintenant s'allient avec des artistes, c'est quand même intéressant. Les architectes, bien sûr, sont toujours plus ou moins liés avec les artistes, mais les philosophes aussi ont toujours été toujours sur cette rencontre, sur la limite entre l'art et la philosophie. C'est une évidence. C'est un grand thème de la philosophie, comme la philosophie politique. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur la question de la transformation, des transformations, et que dès qu'on travaille sur la question des milieux habités, ce qui va faire la grosse différence, par exemple, avec la mésologie, c'est que dès qu'on travaille là-dessus, on travaille sur les gens qui font, qui travaillent la transformation. C'est-à-dire qui transforment avec pas simplement les mots, mais aussi avec d'autres formes de production. Donc je crois qu'il est... C'est pas du tout être optimiste que de dire qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est très nietzschéen quelque part, de dire, voilà, on a le choix entre un nihilisme passif, où on n'a plus rien à faire, on attend que finalement... ça s'accélère le final, et voir qu'on continue de se faire exploiter parce que quand même on est dans une société très inéquitable où il y a une minorité qui confisque la richesse du maximum, de la majorité, c'est la réalité des choses. Donc c'est quand même intéressant le contexte du développement durable parce qu'il pose une vraie question au niveau planétaire sur la question de l'équité. Et le contrat social, le principe responsabilité, les questions qui sont du 18e, qu'on retrouve après avec des penseurs de la nature comme Jonas et qui n'est pas une référence pour moi, mais qui est important quand même, très important, c'est la prise au sérieux d'un état de fait que on ne va pas continuer à entretenir un monde extrêmement inéquitable. Donc pour moi, je pense que je prends très au sérieux quand même le rapport Brundtland, qui démontre la pollution généralisée du globe. Je prends très au sérieux un contexte planétaire qui fait le constat que voilà, on est dans une inéquité absolument inhumaine quelque part. Donc c'est guerrier. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la pensée, le travail, pour moi j'ai accepté par exemple de travailler cette matinée, d'abord parce que c'était une idée de Thierry, mais au-delà de ça, c'est profondément parce que je pense qu'il y a une bataille à mener et que moi je me considère comme je pense que c'est une vraie bataille sur combattre le nihilisme passif qui nous coupe toutes les portes. Il n'y a plus ni fenêtre, ni porte, ni sortie. Et c'est vrai que c'est quelque part cultiver quelque chose qui est finalement une sorte de... Bon, Nietzsche parle d'un nihilisme actif, c'est-à-dire qu'on pulvérise des choses pour faire renaître autre chose. Moi, ça m'intéresse la régénération. et l'héritage, c'est-à-dire qu'on hérite d'une histoire. Et donc c'est vrai que c'est politique, mais pour moi, la politique aujourd'hui, elle est grillée totalement. Quels sont les référents politiques aujourd'hui? Je trouve qu'une nouvelle énergie, je trouve une pensée de résistance, finalement, dans des formes d'une grande fragilité qui sont l'acte de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est aussi des œuvres, des créations artistiques. Moi, l'architecture, je travaille là-dedans, donc je connais quand même bien ce travail. Donc je pense que ce qui se passe là est très, très important, parce qu'on est dans des arts de la transformation. Quand on fait de l'art, on transforme. Et travailler la vision du monde, c'est très important. C'est pour ça que je trouve que avoir des idées de devenir du monde, c'est-à-dire devenir avec le monde, advenir au monde, c'est fondamental. Et que donc la vision, les visions, qu'est-ce qu'on peut devenir ensemble, c'est fondamental. Il faut s'alimenter partout. Pour moi, j'ai aucune. Je pense qu'il faut renforcer le rapport à la culture. Il faut être très savant de la culture qui nous a précédés, mais aussi être quelque part très innocent et très naïf pour quelque part repartir quand même. Et le colloque qu'on va faire bientôt, là, qui s'appelle « Encore l'architecture, encore la philosophie », il a failli s'appeler « Encore l'architecture », fort heureusement, Thierry Pacol a aimé la philo, et alors, avec « Encore l'architecture, encore la philosophie », ça a un autre sens. On pourrait dire « Encore l'art aussi », c'est-à-dire « Encore l'homme », quoi, « Encore l'humain ». Et pour moi, c'est résistance et création. Et je pense que la conférence de Deleuze, la Fémis, c'était parfaite. Et c'est pas par hasard si Deleuze et Guattari étaient des amis. Et c'est pas par hasard si Deleuze était le grand ami de Matinée, bien qu'ils appartenaient à des univers théoriques différents. Mais quelque part, ils cherchaient l'événement comme avènement au monde et avènement d'un monde. Et donc moi, je suis pour un nihilisme extrêmement fort pour pulvériser tout ce qui nous détruit, tout ce qui est toxique, on est d'accord. Après, c'est bien qu'il y ait du débat, parce que sinon, on n'aurait qu'une pensée unique, alors là, on est tout de suite mort.
Dans la première présentation, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est, et qui reprit un petit peu dans la deuxième, par rapport au Land Art. Si on considère que l'œuvre d'art n'est pas la propriété de l'artiste, mais qu'elle est appropriée, qu'elle est vécue par son public, la question des interventions sur le territoire, les dommages que peuvent provoquer une œuvre, sur le caractère non écologique proprement dit de l'œuvre elle-même, je trouve qu'on se rapproche justement d'une approche en termes de développement durable toxique, c'est-à-dire que la portée politique d'une œuvre, elle dépasse ce que les intentions ou la dimension purement technique, entre guillemets, ou écologique au sens réducteur du terme. Et par exemple, ça rejoint un peu la remarque qui a été faite sur I Like America de Debussy. Ce qui est important, c'est la relation, c'est-à-dire la relation entre l'artiste et le coyote, c'est la relation entre l'artiste, enfin, ou l'œuvre et ses publics. Donc je trouve qu'on a approché là essentiellement dans le message que voulaient faire passer les artistes et peut-être pas suffisamment dans ce qui peut se produire entre les œuvres et les publics. Il me semble que c'est important aussi si on veut sortir de. Enfin, avoir une approche du développement, enfin, justement une approche critique du développement durable, c'est-à-dire une approche qui remet en cause une approche technique des actions, des relations. Parce que le développement durable, il a justement tendance à techniciser énormément le rapport au monde. Alors, on peut plus parler d'environnement, on peut plus parler y compris de social, d'économique, etc., sans en référer à des quantités, comme ça a été un petit peu évoqué, je pense que ça crée des biais qui dépolitisent justement la relation. Et je pense que cette technicisation qu'on trouve maintenant de plus en plus dans l'art environnemental a tendance justement à se rapprocher de ce qu'on peut critiquer du développement durable.
Oui, quand il est asséché, quand il est asséché sous forme de documentaire, c'est-à-dire effectivement, on voit bien avec Lucie Horta, Minerva, etc., lorsqu'on se rend dans ces lieux, il n'y a aucune expérience esthétique possible, c'est-à-dire on est vraiment dans le commentaire. dans le commentaire, donc dans la moralisation, dans le catastrophisme. En tout cas, on est dans une pensée extrêmement normative et qui confisque totalement la dimension expérimentale et qui est pour moi ce qui fonde l'esthétique et qui fonde donc ce partage du sensible et qui fait que l'art aujourd'hui est pensé non plus en exception par rapport aux autres activités humaines. C'était les exemples de ces collectifs qui me semblent extrêmement importants en termes de déploiement, d'ouverture, etc. Alors qu'effectivement, c'est la pitié, quoi. Alors que lorsqu'on se rend actuellement dans les expositions, de voir tous ces artistes labellisés écologiques qui sont d'une espèce de... Il n'y a rien de vivant là-dedans. Hein, on est vraiment dans le documentaire et le commentaire. Ça n'a aucune forme d'intérêt.
Et puis quand même, si on prend l'œuvre, par exemple, de Boyce, cette œuvre qui est vraie, c'est vrai qu'elle est inquiétante, je pense. Elle est inquiétante. Oui, mais l'art est inquiétant. L'art est inquiétant. L'art, il est dangereux. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup... alors évidemment, on peut dire, c'est vrai qu'il se trouve enfermé, la malfeuille, ce coyote, c'est vrai. Mais en même temps, peut-être ce coyote, et cette œuvre-là, elle amène à repenser qu'est-ce que ça veut dire être dans ce rapport à l'animal. Donc, c'est autre chose. Donc, mais je pense que c'est vrai que l'art, c'est extrêmement... Il y a une puissance très forte qui est extrêmement radicale. L'art, c'est quelque chose de radical quand même, tout art, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'invente, qui se fait, on voit autrement... Et donc, moi, je pense que c'est une œuvre qui fait beaucoup, qui est forcément forte, parce que elle est, c'est une surprise, c'est inattendu, et en même temps, ça suscite un débat. Je pense que l'art contemporain, bon, je sais qu'Anatalie Anish dit que ça demande un mode d'emploi. J'aime pas du tout ce travail-là, cette façon de penser, mais par contre, je pense que ça rassemble, ça fait œuvre. C'est comme un film, quoi. Ça fait qu'on va en discuter, ça fait débat, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que sinon ça fait rien, quoi. Et quand on regarde, par exemple, les peintures, qu'on voit les mains, par exemple, les grottes, c'est quand même une énigme, ça fait énigme. Donc du coup, ça fait se rencontrer sur le mystère et l'étrangeté de l'existence. Je trouve que ça, c'est quand même très important. L'art, sur ce plan-là, il résiste, c'est vrai.
Oui, et puis fondamentalement...
Je ne suis pas d'accord là du tout, Chris.
Je sais, mais...
Non, je ne pense pas du tout que l'art soit radical.
Il peut être.
Il y a des artistes radicaux.
Oui, bien sûr.
Mais il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'artistes. Oui, je pense à Sylvie Blocher, puisqu'on a parlé d'elle tout à l'heure dans Campon Urbain. C'est des gens, quand même, qui fonctionnent sur les résidences, sur les commandes d'État. C'est très compliqué d'avoir une posture de radicalité. Être en rupture du marché de l'art, des galeries, etc. C'est pas si simple. Moi, je leur jette pas la pierre parce qu'il faut bien bouffer. Mais il faudrait pas croire que spontanément, l'art dominant, bien vu chez les ch'tis, c'est du cinéma aussi. Pour moi, c'est pas radical. Enfin, dans la connerie, oui, mais... Donc, là, il faut bien voir que c'est pas parce que c'est de l'art que tout de suite, moi, je vais m'incliner en disant ça va m'aider à penser, ça va me conscientiser, ils vont être des voyants. Il y a Rimbaud qui est voyant, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein d'artistes qui nous... Ce qui nous crève les yeux nous empêche de voir. C'est écrit par Mystique au coin de la rue qui est derrière.
Mais là, bon,
elle a absolument raison.
On ne peut qu'être d'accord avec ça.
Est-ce que je pourrais juste ajouter un
mot? Non, c'est terminé.
Tu me l'as mis 2 minutes. Je voulais juste rebondir sur ce que Chris a dit tout à l'heure en disant qu'il faut être extrêmement savant sur la culture qui nous a précédé pour travailler avec beaucoup de collectifs de jeunes architectes, designers, artistes, qui par ailleurs ont un enthousiasme, une manière de faire. Et j'adore travailler avec eux, mais ils sont totalement incultes, beaucoup, hein, pas tous. Et c'est un vrai problème, hein, parce qu'il y a une telle inculture qu'ils ne se rendent même pas compte de leur inculture. Et donc, ça fait qu'ils sont engagés effectivement dans des démarches passionnantes, magnifiques, etc., sur plein d'aspects, mais qui restent finalement très superficielles parce qu'il manque l'épaisseur qui serait donnée par une culture. Donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose à préserver. À tout prix.
Je peux rajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes dans la salle. Il se trouve que bon, moi, je suis artiste, mais aussi enseignant à l'école d'architecture aujourd'hui Paris-Val-de-Seine. Je suis confronté à cette problématique de l'artiste aussi et de l'architecture. Là, par rapport à ce que vous dites, il me semble, et là je réponds en tant qu'artiste, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les artistes qui sont problématiques, qui posent problème dans le regard que l'on a sur l'art. ce sont les curateurs, ce sont les gens qui exposent.
Les médiateurs.
Les médiateurs. J'ai dit le terme exactement de curateur, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'introduction de l'accrochage à Beaubourg. J'ai trouvé cette analogie assez belle entre le terme qu'on emploie de curateur et, puisqu'on en a parlé, de soin.
J'ai même assisté à votre intervention au Sambant sur Lignon sur cette question-là.
Sur
justement, à propos de Nathalie Hennish et toute une remise en question de... C'est la prose. Oui, parce que... Excusez-moi, prenons la parenthèse.
Non, ce que je veux dire, c'est que ce rôle de curateur fait que aussi, dans le choix du décideur, de ce qu'on va voir dans une exposition, dans un musée, fait que des fois, il y a une perversion aussi dans le regard et dans l'interprétation que l'on peut avoir par la suite, et dont les jeunes font le... Et non, j'ai fait aussi l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en mesure de comprendre le recul, la critique de l'artiste face à la société, c'est-à-dire que je ne ferai pas le procès justement non plus complètement du land art, même s'il détruit partiellement le paysage, ou qu'il intervient dans le paysage, mais il faut bien des artistes à un moment pour dénoncer notre rapport au paysage, comme on a eu des artistes qui ont dénoncé notre rapport à la consommation. Et je veux dire, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que beaucoup d'artistes, dans le fond, de jeunes artistes, de générations qui suivent, s'emparent d'esthétique dont ils n'ont pas la maîtrise. Je terminerai là-dessus, sur l'interprétation que l'on fait et la justification aujourd'hui de la reproductibilité à travers Benjamin. Je veux dire, j'ai relu trois fois Benjamin pour comprendre que, je veux dire, il disait le contraire. Il est dans la condamnation, il est dans la... Et vous avez combien d'artistes aujourd'hui qui justifient de la reproductibilité, et la reproductibilité est au cœur aussi de cette question de la quantité dont vous avez parlé, de notre paysage écologique. Je veux dire, Benjamin est mal interprété. Donc il y a une méconnaissance culturelle, des textes, vous avez raison, voilà, je termine.